Matthieu, au chapitre 9, et nous commençons à partir du verset 9. Matthieu, chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est précieuse à nos cœurs. Et nous voulons faire attention à tout ce que tu nous dis, car marcher selon ton conseil, c'est pour nous marcher dans la voie de la bénédiction. Aussi, nous te prions que tu nous accordes un cœur simple, un cœur soumis, obéissant à tous tes conseils, afin que nous puissions voir aussi ta gloire se manifester parmi nous. Guide-nous pendant ces instants de méditation de ta parole. Bénis mes frères et sœurs ici présents et moi-même. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous comptons sur le secours d'en haut. À toi seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. J'ai donné à la méditation de ce matin un titre qui va vous paraître un petit peu provocateur, mais je le fais exprès, parce que d'ailleurs, le message que le Seigneur nous a laissé au travers du texte que nous venons de lire ensemble, est un message provocateur. Alors le titre, c'est bien pour notre frère qui me demande toujours le titre de la méditation que nous apportons, eh bien, est celui-ci, « Recevoir le pécheur et refuser le juste ». Alors je le répète, « Recevoir le pécheur et refuser le juste ». Peut-être que ceci vous paraît étrange, mais pourtant ce fait est central dans la foi chrétienne. L'Évangile n'est pas pour les personnes qui se croient justes, se croient saintes, se croient irréprochables, mais l'Évangile est justement pour tous les pécheurs, pour tous les perdus. Je voudrais vous dire que dans la première partie de son évangile, le Matthieu nous présente la généalogie de Jésus-Christ. Et dans la généalogie de Jésus-Christ se trouvent des noms qui sont assez surprenants. Je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez cela pour l'avoir lu, et peut-être vous vous êtes interrogé sur le nom de certaines personnes qui se trouvent dans la généalogie de Jésus-Christ. Il y a deux noms que je peux citer comme cela d'un seul coup. Il y a Rahab, dont la parole de Dieu nous dit qu'elle était une prostituée, et puis il y a aussi Ruth, la Moabite. Et ces deux femmes-là faisaient partie de nations idolâtres, païennes, et pourtant, elles se retrouvent là dans la foi et faisant partie de la généalogie de Jésus-Christ. Si vous prêtez attention, vous allez voir aussi que dans cette même généalogie, il y a le nom de David. Alors quelques-uns me diront, oui, mais le roi David, à son sujet, il est écrit que c'est un homme selon le cœur de l'Éternel. C'est vrai, mais la Bible dit aussi que David a été un menteur, David a été un meurtrier, David a été un adultère. Mais la grâce de Dieu, et ça c'est une chose importante, la grâce de Dieu est intervenue dans la vie de ces personnages que je viens de citer, à un tel point qu'ils sont devenus des canaux de bénédiction. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert, son message était très simple. Et il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lorsque Jésus, à la suite de celui qui était son précurseur, est venu et a apporté le message, son message était tout aussi simple, et il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute, Pierre s'est levé. Et le message de Pierre était dans le même sens. Il s'est adressé à tous ceux qui étaient là et il a prêché quoi ? Il a prêché la repentance. Et nous nous apercevons que tous ceux qui ont accepté dans leur vie ce message de la repentance et que parallèlement, ils ont accepté la grâce de Dieu, ils sont devenus, entre les mains du Seigneur, des canaux de bénédiction pour tous ceux qui les entouraient. Mais on ne peut vraiment se repentir et l'on ne peut vraiment accepter le salut qu'à une condition, c'est qu'un jour, nous soyons vraiment convaincus d'avoir et d'être perdu. Je dis cela pourquoi ? Parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'entendre certains témoignages, y compris de personnes qui faisaient profession de foi, qui venaient aux réunions et se disaient membres de l'Église. Et pour autant, on a senti qu'il n'y avait pas cette base de la véritable repentance. Ils sont venus au Seigneur pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu une certaine bénédiction. Quelques-uns ont été guéris, d'autres ont reçu des bénédictions sur le plan matériel. Ils ont vu le Seigneur intervenir dans certains de leurs problèmes. Mais quand on gratte, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu la conviction de péché, qu'il n'y a pas eu cet appel à la grâce de Dieu, qu'il n'y a pas eu le cri vers Dieu tel que celui dont la Bible nous parle quand il est dit « quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre ». Et nous nous apercevons que les hommes de Dieu, les plus remarquables, ont tous passé par ces moments où ils ont été brisés, convaincus de leur profonde misère et se sont accrochés à la grâce de Dieu. Je voudrais vous citer quelques témoignages, non pas seulement, comme nous venons de le faire, d'hommes tirés de ce que la Bible nous révèle, mais de certains personnages qui ont été considérés comme des serviteurs de Dieu authentiques. Je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui n'ait jamais entendu parler de celui que l'on a appelé Saint Augustin. Augustin était un homme qui a mené une vie vraiment déplorable. Il était dans la débauche et il avait heureusement pour lui une maman qui n'a jamais cessé de prier pour lui. Et un jour, le Seigneur l'a trouvé sur le chemin de la vie et après avoir été engagé dans le service de Dieu, il a écrit ceci. L'Éternel est celui qui m'a délivré de cet homme méchant que je suis. Et il a ajouté ceci, il a mis en relief tout ce qu'il était dans le passé et il a confessé la grâce de Dieu qu'il a libéré de son passé et fait de lui une nouvelle créature. John Knox est un des prédicateurs à Nicosie parmi les plus connus. Écoutez ce qu'il dit. Dans ma jeunesse et même dans ma vie d'adulte, et maintenant, après bien des combats, je ne trouve en moi rien d'autre que de la corruption. Et pourtant, c'est un homme qui a été utilisé par Dieu d'une manière tellement spéciale que des milliers d'âmes sont venues à la connaissance du Seigneur. Nous avons tous entendu parler de John Wesley. Et voici comment il s'exprime. « Je suis privé de la gloire de Dieu. Mon cœur tout entier est corrompu et abominable. Et ma vie entière, n'étant qu'un être mauvais, ne peut connaître la bénédiction ni porter de véritables bons fruits. » Mais cet homme, après avoir dit cela, livré entre les mains de Dieu, conscient de la grâce de Dieu, est devenu un instrument de bénédiction comme nous le savons. Retournons à l'Évangile. Pierre a fait la découverte un jour de la puissance de Dieu se manifestant au travers de ce que l'on appelle la pêche miraculeuse. Et quand il a vu le pouvoir de Dieu se manifester au travers de ce miracle exceptionnel, qu'est-ce qu'il a dit? Il est tombé aux pieds du Seigneur et il a dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Allons à l'apôtre Paul. Et nous voyons Paul écrire à Timothée. Il est dans les derniers instants de sa vie. Et il sait très bien que d'un moment à l'autre, eh bien, il va quitter cette terre, que la porte de la prison dans laquelle il se trouve va s'ouvrir et que quelqu'un va venir le chercher pour que sa vie lui soit reprise. Mais écrivant à Timothée, il dit ceci. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est apparu dans ce monde pour sauver les pécheurs, écoutez la suite, dont je suis le premier. Il ne dit pas dont j'étais, mais il dit dont je suis le premier. On s'aperçoit donc que pour que la grâce de Dieu soit efficace dans notre vie et que cette grâce soit capable d'accomplir des choses qui soient à la gloire de Dieu, il faut que nous soyons dans cette disposition d'esprit, cette disposition de cœur où l'on ne s'élève pas croyant être juste par soi-même, mais où on se rend compte que ce que l'on est, on ne l'est que par la grâce de Dieu. Et c'est justement ce que Paul a souligné plus d'une fois au travers de l'exercice de son ministère, quand il disait que ce qu'il était, il l'était parce que la force puissante de Dieu agissait au travers de lui. Dieu n'élève jamais l'homme. Et jusqu'à la fin, nous devons savoir que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien, et que lui est tout. Comme nous l'avons chanté, notre frère nous a entraînés dans ce petit chœur qui disait « Il est tout pour moi, il est tout puissant, effectivement ». Et tant que nos yeux restent fixés sur lui et que la gloire revient à lui, alors il peut nous utiliser. Mais tant que nous pensons être quelqu'un de bien, de juste, alors il va s'éloigner et nous perdrons tout le bénéfice de cette grâce. Nous connaissons tous ce passage dans l'Évangile où il nous est présenté d'une part un pharisien qui se trouve dans les premiers rangs du temple, et puis un publicain qui est lui au fond et qui n'ose même pas s'approcher, n'est-ce pas, de l'autel. Et le pharisien, lui, s'enorgueillit, se glorifie, et il dit « Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme le reste du monde. Je ne suis pas comme ce publicain là-bas. Je ne suis ni voleur, ni ravisseur. » Il citait tous les péchés qu'il pouvait, dans son esprit, eh bien, imaginer. Mais la Bible dit que lui n'a pas été justifié. Tandis que le publicain, au fond, le pécheur, il se frappait la poitrine et il disait « Sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. » Et la Bible dit « Celui qui est rentré chez lui, justifié et apaisé, eh bien, c'est celui-là même, parce qu'il était profondément humilié devant le Seigneur. » Je vous dis ceci parce que dans le passage que nous avons lu, apparaît la conversion de Matthieu. Et la Bible me dit qu'il était à la table des péages et il était là, accomplissant son devoir, quand tout à coup le Seigneur passe par là. Écoutez ce que le Seigneur lui a dit, c'est simple. Il lui dit simplement « Suis-moi ». Et la Bible me dit « Cet homme se leva et le suivit ». Pourquoi Matthieu a suivi immédiatement le Seigneur? Nous pouvons nous permettre de faire quand même quelques suppositions à partir de tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Cet homme était un péager méprisé par tous ses compatriotes. Pourquoi? Parce qu'il accomplissait un travail qui était considéré par ses compatriotes comme un acte de trahison. Il travaillait pour le compte de l'occupant romain. Mais il avait aussi la liberté de faire ce que bon lui semblait, si bien qu'il pouvait très bien augmenter les taxes selon sa volonté et acquérir une richesse énorme par le moyen de son travail. Et cet homme, néanmoins, en faisant cela, probablement que dans son cœur, il devait être troublé et il savait qu'il était loin de la pensée de Dieu. Et dans son cœur, il y avait de l'inquiétude d'une part, mais d'autre part, il avait le mépris de tout son entourage, de tout ce qu'il connaissait et de tous ceux qui savaient ce qu'il faisait, de tout ce qu'il accomplissait. Si bien que quand Jésus est passé par là, il lui a suffi de croiser le regard du Seigneur, qui est un regard d'amour, pour comprendre que son espoir à lui de changer de vie, c'était de suivre le Seigneur. Et ce que je remarque, c'est que dans l'évangile de Luc, il est donné une petite précision qui ne se trouve pas là dans le texte que nous avons lu, mais il est dit que laissant tout, il suivit le Seigneur Jésus. Il a laissé quoi ? Il a laissé sa vie passée. Il a laissé quoi ? Il a laissé sa fortune. Il a laissé quoi ? Il a laissé ses péchés. Il a laissé derrière lui tout ce qui le caractérisait pour suivre le Seigneur, s'attacher à lui, n'ayant dans le fond que le regard fixé sur celui qui lui avait adressé un tel appel. C'est curieux. Notre frère nous a fait chanter tout à l'heure un chœur, un chant, dans lequel il était dit « Il nous appelle par notre nom ». Ce qui signifie qu'il nous connaît très bien, nous connaît parfaitement. Le jour où nous nous sommes approchés de lui, eh bien, nous avons pu voir clair à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons pu voir combien nous étions éloignés de lui. J'aimerais ici vous dire, mes chers frères et sœurs, s'il n'y a pas eu cette conviction profonde de péché, je voudrais vous dire, c'est important d'invoquer le nom du Seigneur. Parce que je crains une chose, c'est que beaucoup de personnes ne soient amenées de vivre selon une certaine illusion. Et vous savez, le message de l'Évangile est très catégorique. La Bible met en relief que sans une véritable repentance, il n'y a pas de possibilité de salut. C'est choquant d'entendre cela dans un culte, mais mon devoir, ma responsabilité de serviteur de Dieu est de mettre en garde quiconque parmi nous se cacherait derrière une attitude religieuse. Parce que tout le passage que nous avons lu dans la parole de Dieu consiste à dévoiler une tradition religieuse, une routine, un rituel religieux, sans qu'il y ait une authentique et véritable relation avec Dieu, une intimité avec le Seigneur, une conformité de marche avec le Seigneur selon les enseignements qu'il nous a donnés. S'il suffisait de pratiquer une religion pour être sauvé, je ne parlerai pas ainsi. Mais la Bible dit que la pratique d'une religion ne met à l'abri personne de la condamnation éternelle. La Bible est claire. Seul le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Et seul le Saint-Esprit nous régénérant nous donne aussi la possibilité de marcher en nouveauté de vie. Nous pouvons être, comme je l'ai dit au commencement de ma méditation, conscients de ce que nous sommes, profondément conscients. Et des fois, vous savez, quand d'un seul coup on a la révélation de ce que l'on est, eh bien, on n'est pas fier. Je me souviens du témoignage rendu par quelqu'un qui en dit « Je ne sais pas ce que c'est que le cœur d'un méchant, mais en ce qui concerne le cœur d'un honnête homme, c'est horrible. » Il voulait dire par là que même lorsqu'on est considéré comme quelqu'un de bien pour les autres, nous pouvons savoir tout ce qui se cache dans les replis de notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle la meilleure attitude que nous pouvons avoir d'une manière constante dans la présence du Seigneur, c'est une attitude humble, une attitude d'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et ici, Eh bien, Matthieu a tout simplement compris que l'appel du Seigneur, malgré ce qu'il était, et il était bien conscient de ce qu'il était profondément en lui-même, eh bien, était tellement important cet appel. Il s'est levé, a tout laissé derrière, et il a marché derrière le Seigneur. Et là, à partir de ce moment-là, il n'a eu qu'un seul désir. Le premier point, c'est qu'on suit le Seigneur quand il nous appelle. Et le deuxième point, c'est que l'on a envie que les autres connaissent ce que nous, on a expérimenté avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Matthieu? Eh bien, il a invité tous ses amis, tous ses camarades. Et vous savez, ça ne devait pas être des gens tellement recommandables. La preuve, c'est que lorsque certains observateurs ont vu les amis de Matthieu se rassembler dans la maison où Jésus a été invité pour prendre un repas, tous ont dit, mais comment ça se fait que Jésus va là et mange avec des gens de rien, des gens de mauvaise vie? Comment cela se fait-il? Mais Matthieu n'avait qu'un seul désir, c'est de présenter le Seigneur à ses amis pour qu'ils connaissent ce que lui-même venait d'expérimenter et de connaître. Et ça, c'est une bonne chose. Lorsque je suis vraiment changé par le Seigneur, alors mon désir aussi, c'est de rendre témoignage aux autres, pour qu'ils connaissent ce que j'ai pu expérimenter en Christ. C'est la voie normale pour tout véritable disciple du Seigneur. Mais bien entendu, ce qui est ici intéressant, c'est de voir l'attitude des hommes religieux qui n'ont même pas eu le courage de venir rencontrer le Seigneur. Ils se sont adressés aux disciples du Seigneur et ils ont dit, mais pourquoi est-ce qu'ils mangent avec les gens de mauvaise vie? Ce à quoi le Seigneur, ayant entendu cela, a posé ce fondement. C'est le verset le plus clair, le plus explicite, je dirais presque le plus important de l'Évangile. Lorsqu'il dit, et ça, il faut que nous le soulignions, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je ne suis pas venu pour chercher les propres justes, ceux qui n'ont pas besoin de repentance, mais je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je dis que ce message-là, il est tellement important. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il a donné quelques illustrations. Et il nous présente, au travers de certains exemples assez frappants, des vérités que nous avons besoin de serrer précieusement dans notre cœur. Il dit à un moment donné ceci, on ne met pas une pièce de drap neuf à une pièce de un drap usé, un vieux drap qui a été déchiré. Et pour expliquer cela, je vais dire que la plupart, à cette époque, des draps étaient composés de laine ou de lin. Et vous savez, quand on lave pour la première fois un drap de laine ou de lin, que se passe-t-il? Il rétrécit. Et si les vieux, ce travail a déjà été exécuté, et si on place une pièce de drap neuf sur la déchirure, lorsqu'on va laver ce drap-là, la pièce neuve va rétrécir à son tour et va déchirer le drap. Et il dit donc, ça ce n'est pas une chose à faire. Qu'est-ce qu'il veut dire au travers de cela? Mes frères et sœurs, le Seigneur n'est pas en train de condamner le passé, j'entends par là tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Certains ont utilisé de tels exemples pour dire « l'Ancien Testament n'est plus valable ». Ce qui est valable, c'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. D'autant plus qu'il y a l'autre exemple que je vais expliquer aussi à un moment donné, quand il dit, eh bien, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, parce que sinon, eh bien, les vieilles outres vont se rompre et le vin nouveau va se répandre. Et beaucoup de prédicateurs, j'ai entendu, ont dit, vous voyez, c'est une condamnation de l'Ancien Testament. On ne vit pas sous la loi, on vit sous la grâce. Dites-moi, mes frères et sœurs, je veux insister particulièrement ce matin pour vous dire, interprétez ce passage de cette manière-là est vraiment une erreur parmi les plus grossières. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, attention, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. Et il a dit lui-même, il n'y aura même pas une iota qui disparaîtra de la loi, elle subsistera jusqu'à la fin. Ce qui veut dire donc que la loi et la grâce ne sont pas incompatibles l'une avec l'autre, mais parfaitement compatible. Je vais vous dire pourquoi. Le Seigneur a dit, je suis venu pour accomplir la loi. Il l'a fait pendant son pèlerinage terrestre et personne n'a pu le convaincre de péché. La Bible dit qu'il a été comme nous tenté en toutes choses, mais n'a jamais succombé au péché. Or, quand il dit « je suis venu pour accomplir la loi », après avoir accompli ce sacrifice qui nous met à l'abri de la condamnation éternelle, il prend sa place dans notre cœur par le moyen de son esprit. Écoutez Paul parler. Il dit « maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui est-ce qui accomplit la loi ?» En Paul, c'est Christ. Je suis dans l'incapacité totale de mettre en pratique les commandements de Dieu. Je suis dans l'incapacité totale de mettre en pratique la loi de Dieu. Regardez seulement ce premier commandement. Oui, il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et je pose la question, qui, par ses forces naturelles, qui peut mettre en pratique ne serait-ce que ce premier commandement? Le dimanche matin, beaucoup ici peuvent dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Nous avons été exhortés ce matin à dire au Seigneur, je t'aime, en ajoutant, parce que tu m'as aimé le premier. Nous savons tous cela, mais mes frères et sœurs, il y a des fois où nous disons « je t'aime Seigneur » et puis dans la semaine, par notre comportement, par notre attitude, qu'est-ce que nous faisons? Nous proclamons le contraire. Nous n'avons pas la force, le bien n'habite pas en nous. Quelle est donc cette sorte de folie qui fait croire à quelques-uns qui sont au-dessus des autres, parce que ce sont des super-saints, parce que ce sont des gens qui croient être au-dessus des autres à cause de certaines traditions, à cause de certaines observations, de commandements d'hommes, d'un certain rituel, d'une certaine tradition. Ce n'est pas la loi que Jésus condamne ici. Ce qu'il condamne, c'est la tradition religieuse, la tradition rabbinique. Et vous savez, à l'heure actuelle, ce qui est dommage, ce qui est regrettable, eh bien, c'est le fait que tant de chrétiens, tant de personnes sont soumis à certaines dénominations religieuses au lieu d'être soumis à la parole de Christ. Le chef de l'Église, c'est Christ. Et nous ne sommes pas soumis à un système humain Quand nous rentrons dans certains rites, dans un certain rituel, dans une certaine tradition, et que nous méprisons le Seigneur ou les commandements du Seigneur, eh bien nous sommes en dehors du plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour vous dire, mes frères et sœurs, attention, de ne pas confondre modernité et mondanité, de ne pas confondre justement la consécration au Seigneur et de mélanger cela en acceptant l'esprit du monde dans toutes nos pratiques et dans notre comportement. Je m'explique. Lorsque je suis venu ici, l'Église a mis à ma disposition une voiture. Et le Seigneur, lui, pour se déplacer, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait un âne. La modernité me permet d'avoir une voiture, mais ça, ce n'est pas la mondanité. La mondanité, c'est quoi ? C'est l'esprit de ce monde qui se traduit par l'orgueil, qui se traduit par toutes les choses que l'on peut voir se manifester sur cette terre et particulièrement aussi dans notre pays. L'esprit du monde, c'est faire introduire dans l'Église certaines choses que l'on déguise, c'est-à-dire les choses que l'on connaît, qui sont des pratiques du monde, on les déguise en leur donnant un nom nouveau, et puis on les introduit dans l'Église sous prétexte que l'on doit effectivement aider les autres à s'approcher du Seigneur, et on appelle cela la miséricorde et la grâce. Non, non, mes frères et sœurs, ça ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la miséricorde. Rien de ce qui est de ce monde ne doit entrer dans l'Église. Alors je vais essayer de m'expliquer en utilisant cette fois un témoignage tiré de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple du tabernacle. Savez-vous que le tabernacle, cette fameuse tente qui est appelée par ailleurs la demeure de Dieu, divisée, comme vous le savez, en plusieurs parties. D'abord, il y avait le parvis, puis il y avait le lieu saint, puis il y avait le lieu très saint. Mais en ce qui concerne le lieu saint et le lieu très saint, bien vous pouvez observer, en regardant l'Écriture, il n'y avait rien qui pouvait permettre à la lumière de l'extérieur de rentrer à l'intérieur. Rien. La seule lumière qui brillait était la lumière du chandelier. De l'extérieur, aucune lumière ne pénétrait. Vous savez, ce qui doit briller au milieu de l'Église de Jésus-Christ, c'est sa parole. Ce qui doit briller au milieu de nous, c'est la personne du Seigneur. Ce que l'on doit voir dans l'Église, et en chacun d'entre nous, c'est qui ? C'est Christ qui règne dans notre vie et qui règne dans notre cœur. Mais les choses qui sont du monde et que l'on essaie d'introduire sous prétexte de rendre moderne l'Église, ça, c'est à bannir. Parce que je vais vous dire, on ne peut pas changer le message de la Bible. On ne peut pas changer le message de l'Évangile. Il restera le même jusqu'à la fin. Et en tout, Christ doit être le premier. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être renouvelés. Savez-vous pourquoi ? Pour pouvoir être capable de recevoir le vin nouveau. Et le vin nouveau, c'est quoi ? Le vin nouveau, c'est la présence du Seigneur en nous qui se manifeste d'une manière constante. Pourquoi dis-je cela ? Parce que vous connaissez tous ce verset de l'Écriture qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, où il est dit ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, qu'est-ce qu'il est dit ? Soyez remplis du Saint-Esprit. » Nous avons donc besoin continuellement d'être renouvelés. Alors, j'en viens aux outres. Vous savez, les outres, c'était composé, disons, de peau, d'une peau d'un animal. Et c'était d'ailleurs sans couture, et sauf qu'il y avait des coupures juste au niveau des pattes et au niveau du cou. Les pattes ensuite étaient cousues. D'ailleurs, on retournait souvent la peau. Les pattes étaient cousues pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et on laissait simplement le cou ouvert parce que cela servait de bec verseur. Mais les outres, elles se durcissaient avec le temps, avec le soleil. Et quand elles se durcissaient, alors elles devenaient aussi craquelées. Elles pouvaient éclater lorsqu'il y avait une certaine pression. Alors pour éviter cela, vous savez ce que l'on faisait? Eh bien, on plongeait les outres dans de l'eau pour les rafraîchir. Et ensuite, on les frottait avec de l'huile. Et quand c'était complètement renouvelé de cette manière-là, alors elle pouvait encore à nouveau être emplie par le vin nouveau. Elle ne risquait rien. Ce n'est pas par hasard que la Bible nous parle du renouvellement de notre intelligence, du renouvellement de notre vie avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ne s'attachent pas au Seigneur, mais qui suivent le Seigneur de cette manière-là, jamais de contact avec lui chaque jour, jamais de lecture de la parole de Dieu, une prière routinière, habituelle, mais on vient à la réunion parce que là, il y a le pasteur qui apporte la parole du Seigneur et on prend quelque chose de ce qu'il dit. Mais vous savez, de ce que l'on entend, on retient que très peu de choses. Et on pense que cela est suffisant. Alors on vient, comme autrefois on allait à la messe, comme autrefois pour certaines autres personnes, on allait à la synagogue ou alors on allait dans un autre temple, quel qu'il soit. Et on vient parce que c'est le système, et on continue de cette manière-là. Alors on dit, je suis pentecôtiste, ou je suis baptiste, ou je suis protestant, ou je suis catholique. On suit, et on croit que l'on fait partie du peuple de Dieu, parce qu'on est là dans ce système, et on se soumet à certaines traditions. Mes frères et sœurs, tout ce qui n'est pas le résultat d'un amour véritable pour le Seigneur, mais qui n'est qu'une vaine habitude, eh bien, nous conduit dans une voie qui est dangereuse. Nous avons vraiment besoin de crier vers lui et de dire, Seigneur, non, ne permets pas que je m'habitue à un système, que je m'habitue à une routine, que je sois avec un cœur qui est comme cela, religieux, mais qui ne vibre pas d'un amour sincère et véritable. Vous voyez, cette flamme doit brûler dans notre cœur. Vous connaissez tous ce que le Seigneur a dit à une certaine église dans l'Évangile. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire donc que c'est un appel que le Seigneur nous adresse d'une manière constante. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une marche avec lui. Non pas une marche dans l'orgueil qui nous permet de penser que nous sommes supérieurs aux autres. Vous savez combien de fois j'ai entendu, pardonnez-moi par avance, mais combien de fois j'ai entendu des chrétiens pentecôtistes dire « Mais nous, nous avons le Saint-Esprit. Les autres, les baptistes, les protestants ne l'ont pas. Si vous saviez quel mensonge cela peut constituer. » J'ai eu le privilège, je vous le dis tel que, et la grâce, de ne pas connaître le Seigneur comme sauveur au milieu de l'Église pentecôtiste, mais de le connaître dans un autre milieu. Ce qui m'a amené petit à petit à progresser dans une certaine doctrine et à avancer dans une autre direction. Mais le salut Je l'ai acquis en Jésus-Christ, dans un autre milieu que le milieu pentecôtiste. Et je puis vous dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de Dieu. Ne dites jamais qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que si vous parlez avec eux, ils vont vous rendre témoignage de leur nouvelle naissance. Et quand on dit « Je suis sauvé », on ne peut le dire que par le Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre le baptême dans le Saint-Esprit, voilà là où j'ai pu progresser par la suite, et le fait de recevoir Christ et le Saint-Esprit en nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, puisque la Bible dit « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Quel orgueil! Quel orgueil de la part de certains de se croire toujours supérieurs. Et des fois même, dans ces milieux que je viens de citer, il y a aussi le même orgueil, parce que des fois, on met l'accent d'une manière particulière sur la sanctification, et on prêche la sanctification à outrance. Et des fois même, tout en prêchant la sanctification à outrance, il y a cette manifestation de cet orgueil intérieur. Si l'on croit d'une manière ou d'une autre que l'on est supérieur aux autres, on se trompe. La Bible dit « Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais tous nous sommes sauvés par sa grâce. Tous nous sommes sauvés par l'immense amour qu'il a manifesté en nous. » Avez-vous remarqué ce qu'il dit le Seigneur? Il dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non pas au sacrifice. » Ça nous fait réfléchir cela. Parce qu'en même temps, mes chers frères et sœurs, nous devons reconnaître un fait. C'est que les uns, les autres, nous connaissons parfois certaines chutes. Nous connaissons parfois des faiblesses, certains manquements. Avez-vous remarqué comme nous sommes prompts pour cataloguer et dire « Ah, puisqu'il a fait ceci, puisqu'elle a fait cela, eh bien, c'est fini maintenant. » Et on a catalogué de telle sorte que la personne est tout le temps, mise comme à l'index, comme s'il n'y avait plus aucune possibilité de relèvement, plus aucune possibilité que Dieu l'utilise pour la gloire de Dieu. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, si Dieu avait agi de cette manière-là avec un David, serait-il devenu l'homme selon le cœur de Dieu? Si Dieu avait agi comme cela avec Pierre, qu'il a renié, serait-il devenu le prédicateur extraordinaire que nous connaissons et qui a été d'une telle influence au milieu de l'Église de Jésus-Christ? Si justement Paul lui-même, eh bien, qui avait tellement combattu contre l'Église de Jésus-Christ, quand il a été transformé par le Seigneur, s'il n'y avait pas eu la manifestation de la grâce, serait-il devenu cet instrument de bénédiction que nous connaissons? Qu'est-ce qui nous fait croire que parce que nous n'avons pas été pris dans certaines faiblesses, nous sommes au-dessus de celui qui malheureusement a connu certaines chutes et nous imaginons que nous sommes supérieurs? Qui est-ce qui nous fait croire cela? Qui? Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Seulement Dieu, lui, quand il relève, il le fait d'une manière parfaite. Et c'est la raison pour laquelle, mais là, j'insiste, si quelqu'un est né de nouveau, alors il va s'attacher au Seigneur pour le suivre fidèlement. Parce que sa nouvelle nature, qu'est-ce qu'elle fait? Sa nouvelle nature ne peut plus être attiré par les choses qu'il attirait autrefois. Vous comprenez cela? Il y a une autre aspiration, et cette aspiration-là, qui la suscite? C'est le Saint-Esprit en nous. Quelqu'un de régénéré, il va peut-être avoir des moments de faiblesse, mais bien vite, il va réaliser où il en est, et il va implorer le Seigneur pour que dans sa faiblesse, il soit secouru. C'est pourquoi il est écrit par l'auteur de l'Épître aux Hébreux que nous avons sur le trône de la grâce quelqu'un qui peut nous secourir parfaitement dans toutes nos faiblesses. Parce que lui-même, ayant été tenté comme nous en toutes choses, mais n'ayant jamais succombé, peut nous entendre quand nous crions vers lui et nous relever. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Alors nous avons vraiment besoin, et j'ai entendu cela ce matin, je ne sais pas de la part de qui, mais c'était sorte d'exhortation qui se trouve dans la Bible. En tous les cas, la Bible nous exhorte comme ça, « Aimez-vous les uns les autres ». Ça veut dire que nous avons besoin de prendre conscience que ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il a accompli en nous, il peut le faire aussi pour l'autre, il peut le faire pour notre prochain, il peut relever parfaitement. Et quand il le fait, alors là, il y a une grande joie qui peut gagner le cœur de tous. C'est pourquoi, ici, eh bien, ensuite, il est parlé de certains autres qui sont venus trouver le Seigneur avec une question. Les pharisiens se sont adressés aux disciples et ils ont dit pourquoi ils mangent avec les gens de mauvaise vie. Maintenant, c'est une autre catégorie de personnes, ce sont les disciples de Jean. Écoutez bien ici, les disciples de Jean, eux étaient venus vers Jean, eux s'étaient fait baptiser. Et le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Seulement, Jean allait beaucoup plus loin dans son message. Après avoir crié « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il désignait Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il disait « Moi, je ne suis pas le Christ, mais celui qui vient après moi, lui est le Christ. Et je ne suis pas digne de délier les sandales de ses pieds, mais lui, il peut vous baptiser du Saint-Esprit. » Et le vrai baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est cette puissance qui nous donne la capacité de marcher en vainqueur sur le péché, en triomphateur. Mais les disciples de Jean, ce sont ceux qui avaient connu le baptême, mais qui n'avaient pas suivi le Seigneur. C'est pourquoi ils disent, mais pourquoi? Pourquoi nous jeûnons, nous avons de telles pratiques, et vous, eh bien, vous jeûnez pas, vous vous réjouissez, vous mangez ensemble, vous êtes dans une joie extérieure comme cela, évidente. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils s'étaient attachés au système de Jean qui était pour un temps. Ils s'étaient attachés comme cela et continuaient à pratiquer cela, le jeûne et la prière. Et Jésus va leur expliquer. Et il leur a dit, mais est-ce que vous pouvez demander aux amis de l'époux de jeûner quand il est encore là? C'est difficile à comprendre, sauf que quand on connaît la tradition, on sait que les noces à cette époque-là, ça ne durait pas qu'un seul jour. Une noce durait 7 jours. Et pendant ces 7 jours, étaient confiées aux amis de l'époux toutes les festivités. Donc là, il y avait la possibilité d'être ensemble. Ils se réjouissaient, c'était la fête. Et il disait, Jésus a dit, les amis, tant que l'époux est là, eh bien, ils vont se réjouir. C'est l'occasion des festivités. Quand il va partir, alors, ils jeûneront. Voyez, mes frères et sœurs, même en ce qui concerne le jeûne, et nous le pratiquons aussi, quand est-ce qu'on le fait? Non pas pour attirer la bénédiction du Seigneur sur nous. Le jeûne n'est pas méritoire, mais nous le faisons quand il y a un véritable besoin et que notre cœur, alors, eh bien, crie vers le Seigneur parce qu'il sait que la solution ne se trouve qu'en lui. Et ce n'est pas une obligation, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement que de chercher le Seigneur et de lui demander d'intervenir. Et voyez-vous, c'est pour ça que nous avons la possibilité d'invoquer le nom de Christ. Et Jésus a expliqué que pour les amis de l'époux, c'est-à-dire du temps de Jean-Baptiste, ça, ce n'était pas possible. Mais maintenant, il y a une différence. Je ne fais plus rien par habitude. Je ne dois plus faire quoi que ce soit pour me plier à un système, à une obligation, quelle qu'elle soit. Je suis délivré du joug de la religion et librement, je m'attache au Seigneur et je fais selon ce que mon cœur, poussé et pressé par le Saint-Esprit, eh bien, va faire. Et ça, c'est important. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, c'est une grande liberté. Ce n'est plus justement l'occasion, attention, de ne pas confondre la liberté dont parlent certains en changeant la grâce de Dieu en dissolution, mais la liberté d'obéir au Seigneur parce qu'il nous a affranchis, il nous a libérés, il nous apporte quelque chose de nouveau. Le secours d'en haut, le secours du Saint-Esprit. C'est formidable d'être justement dans cette dispensation qui est la dispensation du Saint-Esprit. Plaise au Seigneur que nous lui demandions quotidiennement de nous aider par ce moyen-là, de nous remplir de son Esprit. J'ai remarqué, et je termine par là, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Mais cette fois, possédant la puissance du Saint-Esprit, il vient et il accomplit les œuvres de Dieu, il accomplit des choses extraordinaires. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas par quels moyens Dieu va conduire les uns et les autres dans un temps peut-être de désert pour que nous soyons transformés, délivrés de nos habitudes et que nous trouvions la possibilité de servir avec un cœur nouveau, non plus par force, mais sous l'impulsion du Saint-Esprit et pressé par l'amour de Christ. D'ailleurs, même pour l'évangélisation, dont nous souhaitons de voir un travail réel s'accomplir dans ce domaine, je voudrais souligner ce texte de l'Écriture qui a été écrit par Paul. Connaissant la crainte du Seigneur, connaissant la crainte du Seigneur, alors qu'est-ce qu'il fait ? Nous voulons que les autres connaissent ce que nous connaissons en Jésus. C'est le moyen de les attirer auprès du Maître, parce que le Seigneur seul peut sauver. Nos efforts ne servent à rien, mais lui peut le faire quand nous sommes abandonnés totalement entre ses mains. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous bénisse.